Le jeudi, nous étions ici pendant les temps d'enseignement et le thème que nous avions abordé pendant les temps de prière, c'était sur la prise de possession des villages, des villes, des régions et de la nation. Ce que je voulais dire d'entrée, c'est que, voyez, l'ennemi nous tient dans l'ignorance afin que nous ne comprenions pas le monde spirituel. Vous savez, dans certains milieux, quand on commence à aborder le combat spirituel, les gens disent, ah, attention, vous allez trop loin. Ça, c'est pas bon, vous réveillez tout ce qui est enfoui. Mais je crois que nous avons besoin de comprendre cela. Parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde spirituel. Si nous sommes enfants de Dieu, nous entrons maintenant dans la dimension spirituelle. Il y a un monde visible, il y a aussi un monde invisible. Et nous avons besoin de comprendre cette réalité. Sinon, nous passerons à côté de la bénédiction. Voyez, nos églises actuellement ne peuvent parler à l'offensive, mais parce qu'elles ne réalisent pas les enjeux. Il y a des enjeux, il y a des défis devant nous, mais que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas, parce que ce genre d'enseignement est un peu mis de côté. Et à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons été enrôlés dans l'armée de l'Éternel. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes enrôlés. Et à partir de ce moment-là maintenant, nous sommes en guerre contre l'ennemi. L'ennemi se dresse contre nous. Que tu le veuilles ou pas, il se dresse contre nous et contre l'Église. Et nos églises n'avancent pas parce que nous ne saisissons pas cette réalité. Et nos églises sont faibles, fatiguées, on n'arrive pas à avancer. L'ennemi est là, nous combat, nous arrête. Il n'y a pas de progression. D'année en année, on voit qu'il y a un essoufflement dans nos églises. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau de nos vies. Nous voyons que les gens ne comprennent pas cette réalité. Nous nous engageons à servir Dieu, mais dans la défaite. On est déjà battu d'avance. Avant même qu'on commence à servir Dieu, on se sent déjà vaincu. Et je crois que nous avons besoin d'entrer maintenant en profondeur dans les enseignements sur le combat spirituel. Notre Dieu, c'est un Dieu de guerre. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, toute la Bible ne parle que de guerre. Nous sommes en guerre. Il faudrait que nous le sachions. Et cela doit réveiller en nous quelque chose pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges, au chapitre 6. Juste chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Et c'est en lisant ce texte que nous allons découvrir le thème de mon message ce matin, qui est intitulé « Renverse l'autel de Baal qui est à ton père ». Ouais, Dieu a appelé Gédéon, mais avant qu'il ne commence à servir Dieu, il a d'abord fallu qu'il renverse l'autel, qu'il fasse le point spirituel dans sa vie. Juges chapitre 6, verset 25 dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. » Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui est dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Verset 33, « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. C'est un texte passionnant et qui nous montre ce que nous pouvons faire quand Dieu nous appelle. Et le thème que je vais aborder, c'est « Renverse l'autel de Baal qui est à ton père ». Autrement, on pourrait dire « Renverse les autels maléfiques de ta famille ». Nous voyons, en lisant le début du chapitre 6, on voit pendant que Gédéon était en train de battre le froment au pressoir, l'Éternel l'appela pour qu'il délivre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était opprimé par les Madianites. Et cela avait duré 7 ans. Pendant 7 ans, une oppression. Cela veut dire qu'il y avait une offensive des Madianites contre Israël. Et en lisant tout le chapitre 6, nous comprenons dans quelle situation il vivait, le peuple d'Israël. Une situation économique qui était difficile, une situation sociale, culturelle, une situation spirituelle qui était étouffante. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va maintenant appeler Gédéon. Dieu, quand il fait lever un homme, il va lui donner une vision. Cela veut dire qu'il y a un projet, il y a une action. Et Dieu fait lever un homme avec un fardeau. Et voilà que Gédéon va se lever avec un fardeau. Dieu n'appelle pas un homme sans un fardeau. Nous l'avons déjà dit au cours de nos réunions précédentes, il ne peut appeler un homme sans vision, sans accomplir quelque chose. Il y a un but, il y a une finalité. Mais avant d'accomplir la mission de l'Éternel, avant de servir l'Éternel, la première chose que Gédéon devait faire, c'était de détruire l'autel de Baal, ou c'était encore de détruire les faux dieux de son père ou de sa famille. Donc Baal, c'est un faux dieu. En regardant l'Éternel, nous disons que Baal, c'est un faux dieu. Donc la mission était d'abord de détruire cet autel-là, de renverser cet autel-là. Voilà, quand Dieu nous appelle, autrement ça veut dire que nous devons d'abord faire le point de la situation dans notre vie, dans notre famille. Alors j'anticipe déjà pour dire que nous voyons que beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à aller de l'avant parce qu'il y a des problèmes non résolus dans leur vie, des problèmes non résolus. Dieu veut se servir de nous, comme je le dis, il veut se servir de chacun de nous. Il veut que nous soyons utiles entre ses mains, utiles dans sa maison, utiles dans la ville, dans la nation. Mais il y a quelquefois des problèmes non résolus et qui nous empêchent d'accomplir notre ministère ou la mission de Dieu. Nous voyons quelquefois des serviteurs de Dieu commencer, bien commencer le ministère, mais à un moment donné s'arrêter. Il y a ceux qui ont terminé dans l'impureté, dans l'impudicité, l'adultère. Il y a ceux qui ont terminé comme cela. Il y a ceux qui ont abandonné la foi. Ou il y a ceux qui sont morts avant même d'avoir accompli leur mission. Mais parce qu'il y a des problèmes non résolus dans leur vie. Voyez-vous, chacun de nous, en venant au Seigneur, a des antécédents spirituels. Nous avons tous un passé, soit qui a été créé par nous-mêmes, ou aussi c'est un héritage ancien qui est là. Mais avant de servir le Seigneur, nous avons besoin de faire le point dans notre vie. Vous savez, quelquefois, la difficulté, je vois, nous lançons les gens dans le champ, mais nous ne les avons pas préparés à accomplir la tâche de Dieu. Moi, je dis toujours d'une manière très simple, quand nous attrapons un poisson, nous le prenons, nous sommes allés à la pêche, mais avant de le mettre au four, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut le nettoyer. Voyez-vous, il faut le nettoyer, il faut enlever tout ce qui est mauvais. Voyez-vous, les âmes viennent au Seigneur, mais nous avons besoin de faire un tel toilettage spirituel, un nettoyage spirituel dans nos vies. Nous en avons besoin. Et souvent, nous voyons que les jeunes ministères sont lancés dans le champ sans préparation, sans équipement, sans avoir été au préalable bien nettoyés pour accomplir leur mission. Et le résultat, c'est quoi? C'est l'abandon du ministère, c'est les frustrations, c'est les oppressions, les pressions, et le ministère n'avance pas. Et si ce travail a été fait, vous allez voir que le ministère va aller de l'avant. Parce que Jésus dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et un ministère libre, ça se voit. Un ministère libre, ça se voit, on voit les fruits, on voit la marche de Dieu, on sait que ce ministère est libre. Et tous ceux qui viennent dans cette église-là sont libres. Donc, il y a quelquefois des problèmes spirituels non résolus. Et dans la vie des enfants de Dieu, cela se manifeste de plusieurs manières. Quand les problèmes spirituels ne sont pas résolus et que nous sommes enfants de Dieu, voyez, il y a des manifestations. La première, j'ai vu, il y a une incapacité de marcher dans la sanctification. Tu peux venir à l'église, mais tu ne peux pas vivre une vie de sanctification. Il y a des personnes qui, à tout moment, chutent et rechutent. Chutent, se relèvent, rechutent, et c'est d'une manière continuelle. Donc, incapacité parce que ces esprits-là, ces forces des ténèbres vous tiennent, vous réclament ou vous ramènent en arrière. Donc, impossible. Et nous voyons aussi que certaines personnes, comme il y a des problèmes spirituels non résolus, n'arrivent pas à lire et à étudier la parole de Dieu. En principe, pour un bon chrétien, nous devons lire la Bible, toute la Bible entière, une fois par an. Nous devons l'aimer, la lire, non seulement la lire, mais la méditer, la méditer. Donc, et nous voyons dans nos églises, certains viennent découvrir la Bible dimanche ou pendant la réunion. Donc, on ne la lit jamais, surtout avec la facilité que nous avons des vidéoprojecteurs. On vient même à l'église sans Bible parce qu'on sait que là-bas, il y a un vidéoprojecteur. Donc, on repart chez soi, on ne lit même plus la Bible. Donc, on voit cette incapacité. Voyez. Et on observe aussi que les personnes qui ont des problèmes non résolus dans leur vie n'arrivent pas à prier. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication avec le Seigneur. Et qu'est-ce que nous observons aussi? Un manque de croissance spirituelle. Des personnes, après 5 ans, 10 ans de conversion, sont toujours au même stade, au stade de l'enfance. Alors que nous devons passer du bébé jusqu'au stade vieillard, traverser toutes les étapes. Mais après 5 ans, 10 ans, une personne est toujours un enfant. Il lui faut toujours du lait. Voyez-vous, donc, il y a une difficulté au niveau de la croissance et la vie chrétienne ne s'épanouit pas. Mais parce qu'il y a des problèmes non résolus. Et nous observons aussi que ces personnes, quelquefois, vivent tourmentées, étant à l'église, sont tourmentées par les puissances des ténèbres. Il n'y a pas de joie, pas de paix. Ils sont sous la pression, voient toutes sortes de choses. Donc, il y a un tourment. Alors, voyez, ces problèmes-là influencent non seulement nos vies, mais aussi les églises. Si vous avez dans une église 100 membres et que 60 personnes sont tourmentées, n'arrivent pas, ont des problèmes non résolus, il y aura nécessairement une mauvaise influence dans l'église. L'église ne pourra pas aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Voyez-vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas prêts à aller au combat. Ils ne sont pas prêts à affronter l'ennemi. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'abord nous occuper de ces personnes. Alors, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas accomplir pleinement ton ministère si l'autel de Baal n'est pas renversé, si l'héritage spirituel, familial n'est pas abandonné. Chacun de nous est issu d'une famille. Nous avons des aïeux, des grands-parents, des parents, et qui ont fait des choses que quelquefois nous ne savons pas. Donc, et nous, en venant au monde, nous héritons de ce qu'ils ont fait auparavant. Et nous ne savons pas, nous subissons simplement. Donc nous ne pouvons pas servir si nous n'abandonnons pas. Et nous avons besoin de prier pour que Dieu nous accorde la révélation, même des choses que nous ne connaissions pas, que cela remonte à la surface et soit mis à nu, que nous puissions les confesser et que nous puissions aller à de l'avant. Alors nous voyons que Dieu a appelé Gédéon à le servir. Il fallait d'abord qu'il détruise l'autel de Baal avant d'élever l'autel de Dieu. Donc avant de servir Dieu, il faut d'abord détruire cet autel-là. Et l'autel de Baal qui était dans sa maison avait occasionné des effets néfastes, avait amené des difficultés à plusieurs niveaux, et nous allons le voir. Vous savez, aujourd'hui, une personne, une famille qui vit dans l'idolâtrie, ou une nation, ou une ville, ne sera pas dans le bonheur. Il y aura des problèmes. Et donc, en Israël, à cette époque-là, nous allons voir que les problèmes étaient à différents niveaux, parce que la nation avait accepté le dieu de Baal et le dieu d'Astarté. Nous allons voir la première difficulté dans la vie de Gédéon. Dans la vie de Gédéon, la première, qu'est-ce que nous voyons? Il y avait un esprit de peur, un esprit de crainte. C'est en lisant les Écritures qu'on découvre. Donc, le dieu de Baal, ses faux dieux, ses idoles, dans la famille de Gédéon, avaient occasionné un esprit de peur, un esprit de crainte. Quelquefois, les craintes, les peurs que nous ressentons ont une origine. Rien ne vient comme ça du néant. Il y a toujours une origine. C'est en lisant le verset 11 de Genèse 6 que je comprends la peur qu'il y a dans Gédéon. Il a dit ceci. Pendant qu'il était au pressoir, il dit que, verset 11, « Puis l'ange l'Éternel, donc Dieu se manifeste. » L'ange l'Éternel ici, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Dieu est venu visiter Gédéon. Verset 11. « Puis l'ange l'Éternel, puis vint l'ange l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Pour le mettre à l'abri. Cela veut dire quoi? Qu'il y avait la peur, qu'ils avaient peur des Madianites, voyez-vous? Mais pourtant, ils avaient un dieu. Baal, c'était leur dieu. Mais en même temps, Baal ne pouvait rien faire pour eux. Ses idoles ne pouvaient rien faire pour eux. Ses dieux ne pouvaient rien faire. Donc, il y avait un esprit de crainte, un esprit de peur. Donc, quand il était au pressoir, tout le froment qui était, il fallait qu'il le fasse en cachette. Il avait peur que les Madianites viennent mettre la main là-dessus. Donc, ce dieu de Baal, voyez-vous, avait semé, avait diffusé un esprit de crainte, de peur, de terreur. Donc, voilà ce qu'on observe déjà dans la vie de Gédéon. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de Gédéon, c'est au verset 27. 27, au chapitre 6, toujours, nous restons là. Il est dit ceci. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Donc, nous voyons déjà un deuxième niveau. Il avait la crainte des hommes. Il veut bien servir Dieu. Et il voulait en même temps détruire l'autel. Mais il y avait la crainte, il y avait la peur. Et moi, je présume que cette peur, cette crainte-là, venait de ses idoles, de ses faux dieux. Sinon, il aurait pu le faire aussi facilement. Donc, il exécuta de nuit et non de jour. Donc, nous voyons ici que la peur détient tant de puissance dans les vies. La peur, la crainte. Et aujourd'hui même, beaucoup de personnes vivent dans la crainte. Même les serviteurs, ceux qui servent. La peur du lendemain, la crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Que dira-t-on? Donc, il y a une espèce de crainte. Mais cette crainte-là vient de l'ennemi. Et cela reste une des armes la plus forte de l'ennemi. Nous voulons faire quelque chose, mais le diable va semer la crainte. Nous voulons aller à l'offensive. Certains disent non, on ne peut pas. Mais il y a un esprit de crainte. Donc, c'est l'arme que l'ennemi nous utilise pour ne pas que nous puissions avancer. Donc, la peur permet à Satan de nous tenir. Il nous tient. Et nous voyons comment Gédéon était tenu. Il faisait tout en cachette parce qu'il y avait la peur, la crainte. La peur était aussi réelle quand on lit dans les Écritures, dans la vie de Job. Et il reconnut ses résultats. Job dit ceci, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Voyez-vous, donc Job avait aussi expérimenté les résultats de la crainte. Donc voilà, au niveau de Gédéon, la première chose qui se manifeste à cause des faux dieux, c'est la crainte et la peur. Et beaucoup dans nos églises vivent dans la crainte et la peur. Parce qu'il y a des problèmes non résolus, même un serviteur de Dieu. Dieu a besoin des hommes de foi, des hommes de courage, des hommes audacieux, des hommes qui vont de l'avant. Et nous avons besoin de ce type d'homme. Deuxième chose que nous voyons dans la vie de Gédéon, c'est le manque de confiance en Dieu et en lui-même. Alors, nous lisons le verset 13, au Gédéon chapitre 6, verset 13, qui dit ceci, où nous allons voir qu'il y avait un manque de confiance en Dieu. Parce que Dieu lui a dit, au verset 12, l'Éternel lui a paru, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel, écoutez bien, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, qu'ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Voyez-vous donc, il dit, mais où est l'Éternel? Si Dieu est avec nous. Donc, il n'y avait plus de confiance. Dieu se manifeste, mais lui n'avait plus la confiance en ce Dieu-là. Il ne mettait plus la foi en ce Dieu-là. Vous voyez, quelquefois nous venons à l'église, mais nous n'avons plus la confiance en Dieu. Nous prions, nous croyons que ce Dieu-là ne nous exauce plus. voyez, c'est des prières en l'air. On les dit comme ça, mais est-ce que nous sommes sûrs que Dieu va exaucer? Il n'y a plus de foi. Et aujourd'hui, nos églises vivent comme étant sans foi. Et Gédéon était dans cette situation. Tout le peuple d'Israël, il dit, mais si ce Dieu est là, mais pourquoi ces choses arrivent? Mais pourtant, Dieu était là. Mais ces choses sont arrivées à cause de leur idolâtrie. Ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu est toujours là, il est toujours présent. Et il n'a jamais abandonné ses enfants. Donc, il n'y avait plus la confiance en Dieu. Et il n'y avait plus aussi la confiance en lui-même. C'est dit au verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc, il se sentait incapable. Il dit, « Je suis tout petit dans la maison de mon père. » Donc, il n'a plus confiance en lui. Mais Dieu l'appelle, mais lui n'a plus confiance en lui-même. Donc, il n'a pas confiance en Dieu, il n'a plus confiance en lui-même. Donc, mais ça, c'est une mauvaise existence. Une personne qui n'a pas confiance en soi-même, c'est terminé. Voyez-vous? Et ça nous arrive, même en tant que serviteurs. Nous sommes tous là comme serviteurs. Et cela nous arrive qu'on n'ait plus confiance en nous. On se dit non, c'est fini. Donc, il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais malgré cet état de petitesse, Dieu va le prendre. Dieu va le choisir et Dieu va le prendre. Et au verset 14, le Seigneur va lui dire, va avec la force que tu as. Voyez-vous? Donc, il n'avait plus confiance en lui. Il y avait une force. Mais lui sous-estimait la force qui était en lui. Mais le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Dieu a un autre regard quand il nous voit, avec un autre regard. Et quand nous nous regardons nous-mêmes, on se sous-estime. Voyez-vous, on a des complexes d'infériorité. Ah oui, ça, il y en a en nous, des serviteurs de Dieu, des complexes. Mais Dieu nous regarde différemment. Il voit en nous un potentiel. Il y a quelque chose qui est en nous, simplement qui doit se développer, qui doit aller de l'avant. On se dit, mais est-ce que je saurais parler devant les gens? Est-ce que je saurais me tenir? Est-ce que Dieu va se manifester? Est-ce que, mais je peux rien, je, voyez-vous? Mais va, le Seigneur t'encourage ce matin. Va avec la force que tu as. Et Dieu ne nous choisit pas selon nos capacités. Ça, il faut qu'on le dise. Mais selon nos incapacités, selon nos faiblesses, c'est là où il nous prend. Alors, s'il choisissait, il choisissait seulement les meilleurs, mais je crois que cela n'aurait pas de sens. Cela n'aurait pas de sens. Donc, il nous prend par rapport à nos capacités pour que nous ne comptions que sur sa force, pour que nous ne comptions que sur lui. Une personne qui est déjà, qui est déjà suffisante, mais ne va plus compter sur Dieu, va compter sur sa propre intelligence, ses capacités morales, va compter sur son argent, ses finances. Non, Dieu nous prend avec nos faiblesses. Ah oui, ce qui est merveilleux, c'est cela. Et qu'est-ce qu'il fait quand il nous prend? Il prend maintenant son esprit qu'il met en nous. Oui, ce qui nous donne de la valeur, c'est cela, l'esprit que Dieu met en nous. Et maintenant, il nous prend en tant que ministère, il nous donne aux hommes. La Bible dit qu'il a fait un don aux hommes, et ce ministère-là devient un don, c'est merveilleux. Je ne regarde plus la personne qui est devant moi avec ses incapacités, mais je vois ce que Dieu a mis en lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il veut utiliser. Donc voilà la situation dans laquelle Gédéon se retrouvait. Donc il y avait la peur, la crainte. Il y avait un manque de confiance en Dieu, il y avait un manque de confiance en lui-même. Mais pourtant, ils avaient un Dieu. Mais moi, je présume que c'est l'influence de ces idoles-là qui semait tout cet esprit-là, d'incapacité, d'infériorité, de faiblesse. Alors, le deuxième niveau où nous voyons l'esprit de Baal, ces faux dieux agir, c'est dans la famille de Gédéon. Alors, nous voyons quand il y a une influence spirituelle mauvaise dans quelque part, ça influence les vies, ça influence la famille. Ça influence le village, je remonte, ça influence la ville, ça influence la région et toute la nation. Voyez-vous, donc on commence d'abord au niveau de la vie. Donc voilà, Baal avait aussi une influence dans la famille de Gédéon. Alors nous lisons cela au verset 15, quand, écoutez ce que Gédéon va dire, on l'a déjà lu. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Donc, la pauvreté. Ils avaient un Dieu, mais en même temps, ils étaient pauvres. Ça paraît paradoxal. Alors que ce Dieu-là était censé venir subvenir à tous leurs besoins. Donc, il y avait le manque. Il y avait le manque. Et vous allez voir que dans le monde entier, les nations qui se sont livrées à l'idolâtrie, ce sont les nations où se manifeste beaucoup de pauvreté. Ah oui, il faut que, pour moi, moi je dis souvent dans ma nation, je dis, on peut nous déverser, le Fonds monétaire international peut nous déverser des milliards de francs. Mais si les questions spirituelles ne sont pas résolues dans une nation, il n'y aura pas de développement. Et je crois que l'Europe s'est développée à cause, sur la base de la civilisation judéo-chrétienne. Ça, il faut le savoir. Même si les gens ont oublié cela, même si on nie cela, mais c'est ça qui a favorisé toute la croissance. Parce qu'il y a eu un toilettage qui a été fait, il y a eu des réveils, notamment les réveils partis du pays de Galles, qui s'est répandu dans les pays nordiques. Voyez-vous, et quand vous regardez l'histoire du monde aujourd'hui, pourquoi l'Angleterre a évité la révolution? Mais parce qu'il y avait eu un réveil. Et ce réveil spirituel a amené le réveil économique. Là où il y a un réveil spirituel, il n'y a pas de pauvreté. Et pendant ce temps, en Europe, il y avait la révolution ici. Mais là-bas, il y avait un réveil. Et nous allons voir que ce réveil économique va aller vers les pays nordiques. Donc, et ces pays-là aussi connaissent une croissance économique. Voyez-vous, donc le pôle de développement s'est déplacé. Et maintenant, c'était aux États-Unis. Ils ont connu leur temps de prospérité. Parce qu'il y a eu aussi des temps de réveil là-bas, notamment. Et surtout à partir du réveil à Azusa Street. Donc là, il y a eu vraiment une grande visitation du Saint-Esprit. Et cela s'est répandu. Il y a eu aussi un développement économique. Et pendant longtemps, les États-Unis ont occupé la première place, une place importante sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan, sur tous les plans. Et si vous observez bien, vous allez voir que le développement maintenant commence à aller vers le Pacifique. Si vous suivez, Pacifique Nord, Pacifique Sud, avec la Chine, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée, etc. Donc tout le Pacifique, voyez-vous? Donc parce qu'en ce moment, il y a un réveil dans ces nations-là. Même si en Chine, ce n'est pas proclamé ouvertement, mais il y a un réveil qui se passe en Chine. En souterrain, il y a des millions de personnes qui louent le Seigneur. Voyez-vous, donc ce réveil s'est déplacé. Et nous voyons que les pays qui anciennement avaient connu une prospérité économique commencent maintenant à faiblir. Nous avons besoin de revenir vers Dieu. Si les nations se retournent vers Dieu aujourd'hui, le réveil économique va venir. Donc, la famille de Gédéon était dans la pauvreté. Donc, il faut bien que nous puissions saisir l'histoire de Manassé. Manassé, c'est l'un des fils que Joseph avait eu pendant qu'il a été nommé premier ministre en Égypte. Il avait eu deux fils. L'aîné, c'était Manassé. Et le deuxième, c'était Éphraïm. Ce sont les fils qu'il avait eus en Égypte. Et ces fils-là, il les a eus avec Asnath, fille de Potiphéra. Et Potiphéra, c'était le prêtre d'On. Voyez-vous? Donc, Joseph va épouser la fille d'un prêtre. Mais vous savez, quand une personne comme ça vient au mariage, mais elle amène aussi tout son arrière-plan spirituel. Et vous allez voir, quand Jacob, avant de décéder, il commence à prononcer la bénédiction, Joseph va amener ses deux enfants, Éphraïm et Manassé, devant Jacob. Qu'est-ce qu'il va faire? La main droite, en principe, serait sur Manassé. Mais qu'est-ce que Jacob va faire? Il prend la main droite, il va mettre sur Éphraïm, et la main gauche sur Manassé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que c'est l'influence des prêtres d'On qui était là à partir de ce premier-né qui était là, influencé par les choses occultes? Je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose. Et nous allons voir que Manassé maintenant sera pauvre. Et quand en priant pour Manassé, en priant pour Éphraïm, en posant la main droite, Joseph était irrité. Il dit, père, pourquoi tu fais cela? Et Jacob dit, je sais. Mais il dit, Manassé aussi sera puissant, mais c'est d'abord Éphraïm. Pourtant, il était le cadet. En principe, la main droite, on la pose sur le fils aîné. Mais il pose la main droite sur le fils cadet. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et nous voyons maintenant les conséquences de cela. Et le fait aussi d'avoir épousé la fille d'un prêtre. Et ça a des conséquences qui vont se répercuter. Il dit, nous sommes la famille la plus pauvre en Manassé. Et nous savons que la pauvreté, c'est le résultat de l'idolâtrie. La pauvreté, c'est le résultat des faux dieux qui sont là, qui veulent tenir les gens sous leur dépendance. Alors, le troisième niveau que nous pouvons voir, c'est au niveau de la nation maintenant. Donc, au niveau individuel dans la vie de Gédéon, nous voyons au niveau de la famille, c'est la pauvreté qui se manifestait, mais au niveau de la nation, donc la nation aussi subissait les effets de l'idolâtrie. Alors, à partir du chapitre 6, verset 2, si nous pouvons lire, il est dit ceci,
commençons à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra, voyez, les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 2, chapitre 6, verset 2. La main de Madian, écoutez bien, fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6, écoutez bien, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc nous voyons ici la conséquence de l'esprit de Baal, voyez-vous. Et étant tournés vers l'idolâtrie, Dieu les a abandonnés. Et en les abandonnant maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi vient manifester son oppression sur l'État, sur la nation. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la peur, c'est l'idolâtrie. Ils se cachaient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Ouais. Toute une nation qui vivait comme ça d'une manière, dans les bunkers, on peut dire aujourd'hui. Donc ils se cachaient. Ils avaient peur, ils étaient terrorisés, toute une nation. Et nous savons qu'il y a des nations qui vivent sous la crainte. Sous la crainte. Donc Israël était sous la terreur. Première des choses qu'on voit au niveau national, c'est la terreur. Il y avait une oppression, quelque chose qui pesait sur l'État d'Israël. La deuxième chose qu'on va voir sur le plan de la nation, c'est aussi la pauvreté. La pauvreté. Voyez-vous, c'est ce que nous avons vu au verset 6. Israël fut très malheureux. Donc, les Israélites avaient planté leurs propres semences et l'ennemi avait récolté la moisson. Ouais, si vous semez et que vous ne récoltez pas, mais qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez devenir? Donc nous voyons qu'il y avait la pauvreté. Israël était pauvre. Israël était malheureux. Donc voilà les effets néfastes de cet autel de Baal dans la vie de Gédéon, dans sa famille et au niveau d'Israël. Alors, donc vous comprenez que Gédéon avait maintenant conscience qu'avant d'accomplir la mission de l'Éternel, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait d'abord aller renverser l'autel de Baal. Il fallait faire le point. Il fallait un toilettage. Il fallait un nettoyage spirituel. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Et notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas d'autres dieux. Il n'accepte pas la présence d'autres choses. Alors, nous pouvons définir qu'est-ce qu'une idole. Mais une idole, c'est tout ce qui est contraire à Dieu. C'est la chose pour laquelle nous donnons la première place, tout notre cœur. C'est l'idole, hein, la chose pour laquelle nous mettons beaucoup d'accent. Ouais, donc Dieu ne compte plus, alors que Dieu doit avoir la première place dans toutes nos vies. Donc Gédéon devrait renverser l'autel de Baal. Alors l'autel, c'est quoi? Le mot hébreu pour autel signifie lieu de sacrifice. Ouais, l'autel, c'est un lieu de sacrifice. Et c'est un lieu qui sert de contact avec le monde spirituel. Et les divinités aussi, les divinités païennes, ont aussi leurs autels. Et Dieu aussi avait leur autel. Nous voyons même, avant que Dieu puisse instituer dans la loi, de dire au peuple de bâtir des autels, nous voyons des hommes qui avaient déjà reçu la révélation de l'autel, comme Noé. Après le déluge, quand il est sorti maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel à l'Éternel. Et cet autel-là devait maintenant amener la protection sur toute sa famille. Donc l'autel, c'est un lieu de communion, un point de contact avec notre Dieu. Ça peut être l'Éternel Dieu ou ça peut être aussi les puissances des ténèbres. Et nous voyons aussi Abraham, quand Dieu l'a appelé, il dit « Quitte ton pays, ta patrie, va vers le pays que je te montrerai ». Et quand Abraham a retrouvé le pays de Canaan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc, ils avaient déjà la révélation de l'autel. Ça, c'est très important. Et nous devons avoir la connaissance de l'autel, l'importance de l'autel. Et quand Abraham a bâti cet autel-là, c'était un titre foncier pour lui. Cela voulait dire maintenant que j'occupe ce territoire. Ce territoire m'appartient. C'est à moi. Et Dieu, maintenant, réside avec moi. Et après cela, maintenant, Dieu va instituer les autels. on voit que dans l'ancienne alliance, les sacrifices des victimes étaient liés à l'autel. On offrait des sacrifices à Dieu sur l'autel, sur l'autel. Ça pouvait être en terre, en bois ou en pierre, ainsi de suite. Peu importe, mais il fallait faire un autel et offrir des sacrifices. Et là, Dieu se manifestait. Et nous voyons aussi que les païens offraient des sacrifices aux divinités, comme Baal. Parce que le diable imite toujours Dieu. Il veut imiter. Et lui aussi, il a ce type d'autel. Et nous voyons que même, ils allaient très loin même à offrir des humains. Alors que pour le Seigneur, c'était surtout des sacrifices d'animaux. Alors, mais les divinités païennes, eux, pouvaient aller jusqu'à offrir des humains. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit sur les sacrifices des païens. Il dit que les sacrifices faits par les gentils ne sont pas faits en l'honneur de Dieu, mais plutôt aux démons. Ne sont pas faits en l'honneur de Dieu. Si nous nous offrons, Israël qui offrait des sacrifices, c'était en l'honneur de Dieu l'Éternel. Mais les païens, c'était en l'honneur de leur divinité païenne. Mais avec ce que Jésus maintenant a fait sur la croix de Golgotha pour nous, les sacrifices d'animaux ou les aliments qu'on pouvait offrir sont maintenant, tous ces sacrifices-là sont maintenant proscrits. Nous n'avons plus besoin de faire cela parce que la croix, c'est le meilleur autel qui a été bâti sur la terre à cause du sacrifice qui a été fait. Jésus lui-même s'est offert comme sacrifice. Et nous, aujourd'hui, nous, chacun de nous, c'est un autel. Quand on se retrouve, c'est un autel qui est là. Voyez-vous ? La Bible dit « offrons nos corps comme un sacrifice vivant ». Voyez-vous ? Et nos louanges, nos actions de grâce, c'est un sacrifice que nous offrons à l'Éternel. Donc, en se retrouvant, nous formons là un autel. Et nos prières partent de l'autel et montent vers le trône de la grâce. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir du sang. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir des aliments à Dieu sur l'autel. Parce que Christ avait déjà tout accompli. Sur la croix, il avait dit que tout est accompli. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de brûler les parfums ou même brûler de l'encens pour un culte. Et si nous le faisons, cela constitue un acte d'idolâtrie. Je crois que nous comprenons maintenant tout ce qui est idolâtrie. Si nous offrons quelque chose en sacrifice, les aliments, les parfums, de l'encens, ainsi de suite, c'est un acte d'idolâtrie. Donc, nous devons savoir que l'idolâtrie entraîne la malédiction. Donc Gédéon, sa famille et toute la nation étaient sous la malédiction. La Bible dit que Israël fut très malheureux. Alors parfois, le Seigneur nous permet de devenir très malheureux pour que nous puissions crier à lui. Le fait qu'ils étaient dans la souffrance, cela a permis au peuple d'Israël de se retourner vers le Seigneur. Nous avons besoin de tourner nos regards vers Dieu, de crier vers ce Dieu-là. Dieu entend. Et c'est en cela maintenant qu'il a suscité, qu'il a fait lever Gédéon pour venir les sauver. Les enfants d'Israël crièrent l'Éternel au sujet de Madian et Dieu suscita Gédéon. Et il va l'appeler par son vrai nom. Il dit « vaillant héros ». Donc le nom de Gédéon signifie en réalité « guerrier » ou « héros ». Mais et Dieu ici utilise le sens de son nom, le vrai sens de son nom. Donc, en dehors du fait qu'il appelle par vaillant héros, mais il voulait aussi l'amener vers sa destinée. Chacun de nous a une destinée que Dieu a préparée d'avance. Quand Dieu t'appelle au ministère, c'est qu'il y a une destinée. Mais allons vers notre destinée. Donc, Gédéon, maintenant, Dieu le bouscule un peu, l'encourage. Il dit vaillant héros. Et ça, c'était vraiment, c'est son vrai nom. Et cela ne s'arrêtait pas là, mais cela l'amenait à aller vers sa destinée. Donc, Gédéon va d'abord renverser l'autel de Baal. Et nous pouvons penser aujourd'hui que ce texte-là ne s'applique plus à nous aujourd'hui. Souvent, les gens disent non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On récite cela, mais on dit bien si quelqu'un est en Christ. Est-ce que tous ceux qui viennent à l'église sont en Christ? Il n'y a que Dieu qui le sait. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va faire que nous sommes en communion avec Dieu. On dit si quelqu'un, il y a une condition. Donc nous ne sommes pas toujours en Christ. On peut aller à l'église sans avoir la foi en Dieu. On peut aller à l'église parce qu'on veut, on veut retrouver les autres, on veut se faire du bien, on veut éviter la solitude, etc. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et réellement, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, il faut les amener vers le Seigneur. Et souvent, les personnes disent, non, mais quand on reçoit Christ, voilà les arguments qu'on donne. On dit, on est délivré. les démons n'ont plus le pouvoir sur nous. Moi, je dis oui et non. Oui et non. Tout dépend de la repentance que tu as faite au début. Voyez, une mauvaise repentance faite pendant la conversion va influencer toute ta vie chrétienne. La repentance, le renoncement, demander pardon à Dieu. Et ensuite, maintenant, tu commences à marcher en nouveauté de vie. Alors, si ces choses n'ont pas été bien faites, voyez de quelle manière souvent nous amenons les gens à la conversion. Au cours d'une campagne d'évangélisation, après avoir prêché, on dit, bon, ceux qui acceptent le Seigneur, venez. Et on leur fait réciter une prière. On dit, bon, c'est terminé, maintenant c'est fini, vous avez reçu Christ. Mais la personne est venue, peut-être sous l'émotion ou poussée par la personne qui l'a amené. Il dit, vas-y. Elle vient aussi, elle commence à répéter la prière et tout le monde acclame, oui, il a reçu Jésus. Mais dans son cœur, les actes qu'il a posés, que la personne a posés dans l'idolâtrie, les actes posés par sa famille, et la personne a besoin de demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. C'est vrai, tout est accompli sur la croix, mais chacun de nous aujourd'hui a besoin de faire sa part. Si c'était ainsi, ce serait facile. Christ a tout accompli, maintenant je croise les bras, je ne fais plus rien. Mais il y a notre part. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de chacun de nous aussi. Et l'argument souvent utilisé, on dit oui, il ne faut pas culpabiliser les gens. Et ça revient souvent, mais c'est terrible. Vous voyez comment le diable nous amène, ne culpabilisez pas. Mais on ne culpabilise pas, c'est une réalité. Ouais, le diable nous donne ces mots-là pour que nous ne puissions pas toucher à l'essentiel. Nous avons besoin de parler du péché, de la repentance. Et dans le péché, il y a l'idolâtrie, tout ce que nous avons fait, l'immoralité, les choses mauvaises que nous avions faites, l'impureté, l'occultisme, tout ce que nous avions fait. On a besoin de demander pardon. C'est le péché. On a besoin de se repentir, de changer de cœur, de changer de direction. On a besoin de cela. Et aujourd'hui, les vies chrétiennes sont superficielles. Superficielles parce que le travail n'a pas été fait en profondeur. Aujourd'hui, si nous voulons avoir, nous avons une bonne semence, même sélectionnée dans un meilleur laboratoire. Mais si tu veux semer cette semence-là, la condition, c'est de bien labourer le sol. Il faut bien le labourer, il faut bien émietter le sol. Et dans ces conditions, quand vous posez votre semence, elle va bien germer. Voyez-vous donc, souvent nos cœurs ne sont pas travaillés. Il n'y a pas de changement en nous. Et la repentance n'a pas été sincèrement faite. Et quelque temps après, vous voyez la personne, on va l'amener aux eaux du baptême. On dit c'est fini, ça fait 6 mois, 1 an que tu es là, il y a un baptême, tout le monde est content. Mais il y a des choses encore dans la vie. Regardez le cas de Simon le magicien. Il a cru aussi, il faisait la magie. Vous voyez, il y a un passé dans sa vie. Il y avait un passé, il était magicien. Et il tenait toute la ville de Samarie. Et quand Philippe est venu, il a commencé à prêcher l'évangile avec puissance, avec autorité. Les gens se convertissent, Simon s'est converti. Alors, il a fallu l'arrivée du ministère apostolique de Pierre et de Paul et de Pierre et Jean. Quand ils sont venus, ils commençaient à prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et Simon a vu cela, il est allé voir Pierre et dit, mais je vous donne de l'argent pour que vous aussi vous me donnez ce pouvoir-là. C'est en cela que Pierre dit, mais je vois que ton cœur n'est pas droit. Mais pourtant, il était baptisé, mais son cœur n'était pas droit. Et Pierre lui dit, je vois que tu es encore dans la méchanceté. Donc, il y avait la méchanceté dans son cœur. Mais une personne qui est en Christ n'est plus méchante. Une personne qui est en Christ, son cœur est droit. Et Pierre continue, dit, je vois que tu es dans le lien amer de l'iniquité. Tu es dans l'amertume. Mais une personne qui est en Christ ne vit plus dans l'amertume. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin de faire ce travail-là en profondeur. Donc, certains disent, non, mais ça ne s'applique plus à nous. Mais c'est un bel exemple, le fait que Gédéon, c'est symbolique pour nous. Avant de servir Dieu, réglons toutes les questions spirituelles. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Dans nos vies, dans la vie de la famille, qu'est-ce qui nous a influencé? Qu'est-ce qui a influencé ma famille? Et il y a un héritage ancestral de l'idolâtrie et des faux dieux qui nous influencent. Si tu ne l'as pas fait, tes ancêtres ont dû le faire, qui nous influencent. Alors, nous allons voir maintenant, quand Gédéon a détruit cet autel-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous nous débarrassons des faux dieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a nécessairement des conséquences. Et nous allons voir la première conséquence, c'est à partir du verset 30 à 31, au chapitre 6 toujours, verset 30. Quand Gédéon avait détruit l'autel, commençant à partir du verset 30, alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils, parce qu'il a détruit l'autel, et qu'il meure. car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Ouais, donc toute la ville le cherchait. Allez, écoutez la réponse de Joas, son père. Pourtant, c'est lui qui était le prêtre, mais il va maintenant commencer à défendre, son fils. Donc, première conséquence, c'est l'affranchissement de la maison de son père. La maison de Joas, de Gédéon, était affranchie après avoir renversé l'autel. Écoutez ce que Joas va dire. Joas se répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Écoutez bien. Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Voyez donc, c'était sa libération. Voyez, les paroles du père de Gédéon ont changé. Les paroles ont changé. Nous percevons maintenant qu'il y a eu la libération. Il commence à défendre son fils. Il est du même camp que son fils. Il dit, mais si Baal est un dieu, mais qu'il se défende lui-même, alors que lui, il était le prêtre. Donc, nécessairement, la destruction des autels va amener l'affranchissement de la maison, de la famille. Deuxième conséquence, c'est au verset 32. Il est dit ceci, « Et en ce jour, après cela, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. » Deuxième conséquence, son identité change. Il a maintenant une nouvelle identité, un nom qui lui a été donné, Jérubal. Donc, par là, je vois aussi que son caractère a changé. Quand Dieu veut nous utiliser, il va d'abord changer notre caractère. Il va transformer notre caractère. Il veut que nous soyons des hommes qui puissent affronter toutes les situations. Donc, et nous voyons aussi par son identité qui a changé, son état d'esprit aussi a dû changer. Donc, nous voyons que Gédéon, maintenant, c'est un homme nouveau. Un homme courageux, un homme qui est maintenant prêt à servir le Seigneur. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Voilà la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est au verset 34. Ah oui, ça c'est merveilleux. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Donc l'onction de Dieu maintenant était sur lui. Dieu ne donne pas l'onction à ceux qui ont encore un pied dans l'idolâtrie, un pied dehors dans le Seigneur. Ah non! À ceux qui sont partagés, Dieu ne donne pas son onction. Dieu donne son onction à ceux qui sont tout entiers à lui, à ceux qui lui appartiennent. Et Dieu a déversé son onction. Oh, moi je prie que le Seigneur nous donne une onction sans mesure. Tu sers le Seigneur, nous avons besoin de cette onction-là. Il y a une personne qui m'a dit, oui, mais vous parlez trop de l'onction. Mais parce que tel que nous voyons l'onction, c'est seulement pour faire tomber les gens. J'ai dit non. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour le servir. Si tu es dans la louange, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as l'intercession, tu as besoin de l'onction. Tu es prédicateur, tu as besoin de l'onction. Je suis pasteur, j'ai besoin de l'onction de pasteur. Je suis prophète, j'ai besoin de l'onction prophétique. Je suis apôtre, j'ai besoin de l'onction apostolique. Cette onction m'accompagne pour servir le Seigneur. Et il y a des personnes qui ne réussissent pas parce que, mais il n'y a pas d'onction dans leur vie. Voyez-vous, Dieu ne leur a rien donné. Mais on est poussé par les autres. Il dit, vas-y. Et la personne essaie avec ses propres forces. Dieu dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'esprit dont il est question, c'est l'onction que Dieu nous donne. Et nous avons besoin de cette onction-là. Quand un serviteur de Dieu a l'onction, vous voyez que l'onction accompagne tout son ministère. C'est tout le ministère, ce n'est pas seulement pendant la prédication ou pendant la prière pour les malades, c'est tout son ministère. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et là où les autres s'arrêtent, lui ne s'arrêtera jamais. Là où les autres sont découragés, lui il ira de l'avant. Là où les autres reculent, lui va toujours avancer parce que l'onction est là. Donc on voit Gédéon être revêtu de l'onction pour accomplir la mission de Dieu. Alors quatrième conséquence au verset 35. Il envoyait des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montaient à leur suite. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il devient un leader, un meneur d'hommes. Vous voyez, il envoya des messages dans tout Manassé. Donc, il avait la capacité maintenant de rassembler. C'est ça un leader, celui qui rassemble, celui qui conduit les autres, un lead, celui qui a la tête. Non, il devient leader à partir de ce moment-là. Mais il a fallu d'abord qu'il fasse le point, qu'il renverse les autels de son père. Donc on voit qu'il est devenu un rassembleur. Cinquième conséquence, c'est, nous allons lire cela à partir du chapitre 7. Si on peut aller au chapitre 7 de Juges, à partir du verset 22. Nous allons voir la cinquième conséquence après que Gédéon ait détruit l'autel. Chapitre 7, verset 22. Commençons à partir du verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tzirira, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Verset 23. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Verset 24. Genèse 7, verset 24. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Verset 25. « Ils saisirent deux chefs de Madian. » Vous voyez la victoire. C'est les Madianites qui les opprimaient maintenant. Ils sont allés en combat. Et ils ont saisi les chefs de Madian, Oreb et Zeb, ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian. Alléluia. Ils avaient maintenant la force de poursuivre l'ennemi. Alléluia. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Donc la victoire finale, ça paraît cruel, mais c'est comme cela, c'est la Bible qui nous relate cela. La victoire finale était là. Alléluia. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous puissions vivre une vie de victoire dans nos ministères. Je disais jeudi ici, moi je rêve ici dans cette église, d'une grande église. Moi je suis en train de la voir, c'est possible, on peut y arriver. Ici, nous pouvons mettre 300 personnes, c'est possible. Faire deux cultes, trois cultes, c'est possible. Nous étions en train de prier pour la ville, mais nous avons besoin de connaître les princes qui travaillent dans cette ville. Parce que ces princes-là émettent des principes spirituels qui influencent les gens, qui aveuglent les gens, qui les empêchent les gens d'aller vers le Seigneur. Nous devons les connaître et prier maintenant, nous attaquer à ces princes-là. Quels sont les princes qui tiennent l'île? Quels sont les princes qui tiennent la région? Nous avons besoin de les connaître. Et maintenant, de telle sorte que nos prières seront bien ciblées et Dieu nous donnera la victoire. Puisque l'onction de Dieu est là, Dieu nous donnera la victoire. Les gens seront libérés et pourront maintenant venir dans nos églises. Moi, je crois qu'il peut y avoir une croissance, je crois. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas de l'audace, mais je suis convaincu par le Saint-Esprit qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Je dis qu'il peut se faire. Nous pouvons aller de l'avant. Pourquoi nous sommes là comme un petit troupeau et nous sommes contents d'avoir une église de 50 personnes, 100, on est, je dis, mais nous devons prélever la dîme de la ville. L'île a combien d'habitants? On m'a dit 150 000. 1 million, toute la métropole. Alors, donc si nous prélevons la dîme, 1 300 000, nous avons 130 000 personnes qui viennent au Seigneur. Ça a été notre vision dans ma nation. On a commencé à prier dans ce sens-là, prélever la dîme du peuple. Alors, nous avant-hier, nous passions avec Antoine devant le Zénith. Il dit le Zénith a 13 000 places. Mais j'ai dit, mais nous pouvons faire 4 cultes. Et nous sommes allés un peu plus loin, on rigolait, on dit, mais si un culte de 13 000 personnes, tous les problèmes financiers sont résolus. 13 000 personnes, même si une personne donne seulement 1 euro, tous les problèmes, donc on paye la salle, on paye, on résout tous les problèmes et l'œuvre peut avancer. Moi je crois, nous devons avoir cette grande vision, que nos cœurs s'élargissent, que notre vision s'élargisse, que nous ayons plus de combativité, que nous puissions aller de l'avant. Mais il y a des choses qui nous dérangent. Depuis que je suis en France, je suis en contact avec beaucoup de serviteurs de Dieu dans la France. vous me pardonnez-moi, ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Mais beaucoup ont besoin encore de repartir à la base, avoir des temps de jeûne, de prière pour la délivrance, de faire le point dans leur vie. Il y a des choses qui les coincent, qui les tiennent encore. Des choses inacceptables dans leur vie. J'en ai rencontré plusieurs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais tu ne peux pas être béni parce que tout ce que tu fais là constitue un obstacle. Les gens ne peuvent pas venir. L'onction ne peut pas se manifester parce que c'est l'onction qui attire. Et tu seras toujours au même stade. Tu peux passer 10 ans à avoir seulement 40 personnes. 10 ans. Mais parce que ta vie n'est pas en règle, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Nous avons besoin de faire le point dans nos vies. Et je crois que chacun de nous-mêmes ce matin va commencer à regarder sa vie. Est-ce qu'il y a des choses qui n'attristent pas le Saint-Esprit dans ma vie? Nous sommes l'entre serviteurs et on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas d'idole dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans ma famille? Est-ce qu'il n'y a pas d'impureté dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont souillé ma vie, mon ministère? Mais si ces choses-là sont là, il faut les enlever. Nous avons besoin de nous approcher devant Dieu. Chez moi, quand un pasteur est en difficulté encore, il y a des choses qui ne vont pas, je dis, écoute, tu arrêtes d'abord le ministère. Tu arrêtes. J'écoutais, ça paraît un peu bizarre, un pasteur de la région parisienne qui disait, oui, bon, mais tu sais, je ne suis pas entré en contact avec cette femme-là, mais nous avons seulement... Je dis, même à partir du moment où vous commencez à vous embrasser, tu ne peux pas, serviteur de Dieu. Comment tu peux le faire? Alors là, tu gâches ton ministère. Il dit, non, on n'y a pas eu contact sexuel, mais on s'est un serviteur de Dieu. Vous savez, tous, nous sommes là, il n'y a que Dieu qui nous connaît. Je vous assure, si vous êtes libre, votre ministère va aller de l'avant. L'onction va attirer. Si l'église, les gens sont libres, j'ai expérimenté, comme nous travaillons dans la délivrance, quand une personne est libérée, mais la personne est enflammée. Enflammée, a du zèle, témoigne, amène les âmes, et ainsi de suite. Et vous voyez une onction, une autre atmosphère dans la salle. On n'a pas besoin de forcer la louange, l'adoration. Mais pendant les temps de louange, l'adoration, vous voyez la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens sont guéris, bénis. Les gens donnent leur cœur au Seigneur. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. C'est agréable d'être dans cette réunion-là. Une seule parole suffit. Quelquefois, on vient, on ne prêche pas longtemps. Le peuple est déjà préparé. Une seule parole de bénédiction, ainsi de suite. Ou quelquefois, on commence par la parole et on termine par l'adoration. Et nous bénissons le peuple. Je vais terminer par là. On peut dire beaucoup de choses. Vous voyez, je crois que vous avez compris ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut se lever, prier avant de passer à la deuxième session? Alléluia. Chacun de nous fait le point. Regarde s'il y a des idoles dans sa vie. Élevons la voix tous ensemble, priant. Nous allons crier à l'Éternel comme ont fait les enfants d'Israël qui ont commencé à crier à l'Éternel. Crions à l'Éternel qui vienne à notre secours, qui vienne à ton secours pour ton ministère. Ton ministère qui ne va pas de l'avant, ta vie qui ne va pas de l'avant. Commence à crier vers Dieu. Ce matin, nous attendons un véritable cri. Si nous pouvons parler un peu fort, parlons à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Seigneur, tu vois les idoles qui sont dans ma vie, qui sont dans mon ministère, Seigneur. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, qui attriste ton esprit. Je ne suis pas digne, Seigneur, de te servir. Seigneur, je prends l'engagement ce matin de détruire ces idoles, ces faux dieux. Je prends l'engagement de renoncer au péché. De renoncer à toutes les mauvaises choses. Je suis à toi, Seigneur. Je me donne tout entier à toi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, conduis-moi. Oui, criez au Seigneur avec force. Alléluia. Ne sois pas distrait. Parlons au Seigneur à ce Dieu-là. Alléluia. Que tu nous viennes au secours. Alléluia. Oui, oh, alléluia, tu es Dieu, Seigneur, et tu viens au secours de ton peuple. Tu viens nous aider, Seigneur. Et tends ta main de puissance sur nous. Et tends ta main de bénédiction sur nous. Oh, Seigneur, nous sommes à toi. Merci, mon Dieu, pour nos cœurs. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Lave-nous, Seigneur, avec ton sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Mon Dieu, nous sommes à toi ce matin. Nous nous attendons à toi.
Amen. Pardonnez-moi pour avoir débordé de 10 minutes. On fait la pause et on aura le temps de prier tout à l'heure. La présence de Dieu est là.
Amen.
Ouais, nous voyons l'onction de Dieu est là. Nous allons prier tout à l'heure.
Amen. Alors le temps de pause est prêt. Vous pouvez passer la porte. Et dès qu'on va manger encore mieux que ce qui se passe.
Amen. Ouais. Ah, passe un bon moment.